Bienvenue pour cette dernière table ronde. Je voudrais d'abord remercier les organisatrices Sylvie Protin et Marianne Duflot pour cette invitation et dire tout le bonheur que j'ai à retrouver tout le monde, tous ceux que je connais, les étudiants également du Master Pro. Et je salue aussi cette initiative de Lumière d'ailleurs qui est formidable, je trouve formidable, qui permet de mieux faire connaître non seulement ce master, mais tout ce qui se passe autour du thème et de la passion de la traduction. J'aimerais donc présenter nos invités. À ma gauche, Toria Fili-Tulon, qui est maître de conférence à l'Université Lumière, Lyon 2, qui est traductrice, qui traduit du français vers l'arabe et de l'arabe vers le français, qui est l'une des très rares, sinon la seule traductrice d'Édouard Glissant. Je sais si c'est difficile à traduire. Elle a été responsable de la CICLIM, qui est la coordination internationale des chercheurs sur les littératures maghrébines, et elle est aujourd'hui coordinatrice de l'IMA, qui est la plus grosse base de données concernant les littératures du Maghreb. Donc elle pilote tout cela, et nous avons le plaisir de l'avoir parmi nous. Nous avons également le plaisir de recevoir Madame Juliette Ponce. Vous avez traduit, vous êtes éditrice et traductrice, vous avez traduit de nombreux ouvrages de littérature espagnole, donc vous traduisez de l'espagnol vers le français. Vous écrivez également, vous collaborez à plusieurs revues. Vous êtes chargée de littérature étrangère, vous avez été chargée de littérature étrangère chez De Noël, dans la collection De Noël et d'ailleurs, et vous êtes aujourd'hui la directrice éditoriale de la littérature étrangère aux éditions du chez Chastel. Je ne sais pas si on dit Chastel, c'est ça ?
Oui, très bien.
Donc, bienvenue. Et je présente également M. Emmanuel Varlet, qui a vécu dans de nombreux pays arabes, dont la Syrie, déjà, en Égypte essentiellement, mais aussi, je crois, à Damas, à Beyrouth, et au Maroc, à Casablanca. Vous êtes traducteur de l'arabe et vous êtes porteur de projet pour les éditions du Seuil, pour la belle collection Cadre Vert. Je voudrais plus tard vous poser la question pourquoi ils ont appelé ça Cadre Vert. Et vous avez notamment traduit les écrivains Youssef Mouhanit, Chabouk Haïdi et Salim Barakat. Voilà. On est heureux de vous avoir, tous les trois, sur le plateau, de Pablo Ronde. Et je passe tout de suite la parole à Maizel Mohamed Kiba.
Merci. En fait, aujourd'hui, je vais partir d'une question générale à partir du titre de notre table ronde, c'est le tabou de l'autre, traduire le monde arabe en France. Et j'aimerais bien vous poser une question, c'est qu'est-ce que pour vous le tabou de l'autre, avant de se plonger dans le domaine de la traduction, en fait, qu'est-ce que pour vous le tabou de l'autre ?
Tabou de l'autre, je ne sais pas, pour moi ça me rappelle quelque chose que j'ai lu dernièrement, qui est dans une espèce de révisionnisme intellectuel. Par exemple, les Arabes n'ont rien apporté à l'Occident. Pour moi, c'est le tabou de l'autre, c'est ne pas reconnaître à l'autre ce qu'il peut nous apporter.
Ouais. D'accord.
Mais je dirais la même chose pour les Arabes qui rejettent l'Occident et qui ne voient en la francophonie qu'une une manière de néocoloniser le monde arabe et le reste du monde. Vous voyez, cela va dans tous les sens. Donc on est toujours l'autre de quelqu'un, quelque sorte.
Maintenant, on veut savoir pourquoi la traduction du monde arabe en France reste comme un tabou.
Alors, si vous, par cette expression, vous voulez dire qu'effectivement on traduit peu, je ne peux que vous rejoindre, bien entendu. Avec cette réserve toutefois que la France, à l'échelle européenne, reste quand même le premier pays à traduire.
Je crois que c'est le deuxième pays après la Turquie, oui, mais en Europe, oui.
Alors, effectivement, on traduit peu. Et l'arabe ne représente en règle générale, que moins d'1% de toutes les traductions. Dans tout ce qui sort en France chaque année, l'arabe ne représente même pas 1%. En 2009, par exemple, c'est l'équivalent coréen. Voilà, cet amaga, c'était même le coréen était un petit peu au-dessus. Donc effectivement, quand on sait quel lien unis ou désunis, ou quel conflit, en tout cas quel dialogue existe entre l'Arabe et la France, ça fait réfléchir. Voilà. Donc, de ce point de vue-là, bien tabou. On est d'accord. Peut-être après, on pourra compléter.
Oui, je crois que dans le tabou, il y a l'idée d'interdit, d'être interdit et de s'interdire aussi. Et évidemment, enfin, moi, du côté éditorial, c'est ce qu'on ressent aussi. Certes, il y a peu de choses traduites, mais c'est aussi parce que les circuits par lesquels nous arrivent les textes en tant qu'éditeurs sont complexes. Il y a des pays et des langues qui sont traduites depuis très longtemps pour une présence éditoriale très forte et donc un circuit pour faire parvenir des textes aux éditeurs très élaborés, très rodés, qui fonctionnent très bien. Et il se trouve que d'autres domaines linguistiques sont plus... Même si les liens culturels sont anciens, ils n'ont peut-être pas les mêmes traditions en termes éditoriaux, en termes d'existence de maison, d'existence d'une culture, aussi de diffusion de l'écrit, tout un tas de choses qui interviennent et qui font que, au-delà de réticences, il y a un ensemble de barrières qui se met entre le texte et l'éditeur. Je pense que c'est quelque chose qui se passe avec ce domaine linguistique. Et heureusement, le rôle des traducteurs, le rôle de passeur qu'on mentionne si souvent, est là vraiment. Prend tout son sens, puisque en effet, sans eux, c'est beaucoup plus dur d'avoir accès à des langues, c'est très rare. Moi, je n'ai par exemple jamais travaillé dans une maison où il y ait eu quelqu'un qui soit à l'intérieur du mur de cette maison, qui soit éditeur et qui lise l'arabe. Moi, je ne le dis pas. Il y en a, il y a des maisons où ça existe et on les reconnaît tout de suite, qui ont une production beaucoup plus. Importante que les autres proportionnellement, je pense que c'est aussi lié à ça.
Moi j'ai dans le sens contraire, c'est-à-dire je dirais que pour le monde arabe, en tout cas une partie du monde arabe, c'est-à-dire le Maghreb, il existe des maisons d'édition francophones au Maghreb, et donc qui traduisent d'ailleurs dans les deux sens, en arabe et de l'arabe. Donc effectivement, si on parle de la traduction en France, c'est tout à fait juste moins 1%, mais si on pense que dans les pays où il y a une tradition francophone, il y a des traductions dans les deux sens, de l'arabe et du français, donc cela compense un petit peu. Et d'autant plus qu'il y a aussi une littérature francophone issue du monde arabe, et donc qui complète aussi donc, ce savoir sur le monde arabe qui ne passe pas forcément par la traduction, mais par cette écriture francophone.
On revient aux chiffres du Centre national du livre et des lettres qui indiquent que le sens arabe français est aussi entre 0,6 et 1% des traductions en France. Mais est-ce que ça revient à l'effet de l'absence de politique publique arabe de soutien à l'extra-traduction?
Bon, là, vous mettez le doigt sur grande question, le nerf de la guerre. le décollage quantitatif des traductions, alors je parle notamment en littérature, un petit peu aussi en sciences humaines, des traductions de l'arabe vers le français, a eu lieu à peu près dans les années 90. Pourquoi ? Il y a déjà une chose, c'est que le rôle de Sinbad, qui a ensuite été racheté par Actes Sud en 1995. Mais il y a eu aussi toute une série d'initiatives institutionnelles. Par exemple, au Caire, il y avait un bureau de la traduction qui était dirigé à l'époque par Charles Lacombe, traducteur. reconnu, avec aussi l'Institut du monde arabe, avec l'APES, il y a eu le Nobel de Mahfouz, voilà, donc il y a eu tout un appui institutionnel. Après, je ne suis pas sûr que ce soit le rôle des pays arabes, je parle ambassade de diverses organisations, de financer directement les traductions de l'arabe au français. Moi, généralement, tous les textes n'arrivent pas comme ça. Voilà. Voilà. Je ne sais pas si tu...
Oui, je pense que je rejoins ce que tu dis et je crois que, en revanche, il y a parfois des vrais coups de pouce de la part des institutions quand elles proposent des extraits de traduction. On en parlait tout à l'heure. C'est pas tant qu'un éditeur va plus davantage publier un texte dont il a l'ensemble de la traduction payée par une institution culturelle. Je pense qu'en effet, là, c'est pas forcément un rôle. En revanche, je crois que ça aide beaucoup quand il y a des structures qui ne sont pas toujours institutionnelles, mais enfin souvent, qui proposent de réunir des traducteurs dans les pays, de très bien connaître, de très bien identifier qui sont les traducteurs, qui sont les lecteurs potentiels, qui peut être la courroie de transmission. Je pense que là, il y a un vrai rôle à jouer, plus que dans le financement, qui a toujours... c'est toujours bien, on est content si on nous aide à financer un livre, mais je crois que le premier travail, c'est d'abord faciliter la transmission. Et ça n'est pas que pécunier. Un éditeur, il veut savoir ce qu'il est en train d'acheter. Et s'il ne lit pas la langue, il faut au moins un aperçu sur le texte, au moins quelqu'un de confiance sur qui s'appuyer. Et là, il y a un vrai rôle à jouer, je pense.
Et je crois que, puisque le thème de cette table ronde s'appelle le tabou de l'autre, je crois que la traduction de l'arabe ne devrait pas concerner uniquement la littérature, en tout cas pas uniquement la littérature au sens traditionnel du terme, mais peut-être aussi passer par la traduction, je ne sais pas, de films, de romans photos, de bandes dessinées, d'autres supports culturels, puisque si nous voulons justement déconstruire ce tabou de l'autre, il faudrait peut-être nous intéresser à un public beaucoup plus large que une poignée d'intellectuels curieux du monde arabe ou de l'ancien Orient, entre guillemets. Voilà.
Oui, moi, je voudrais juste pour poser aussi une question, un petit peu discuter de ça. Je pense qu'il y a aussi une question politique. Il me semble que, bon, ce que vous avez dit, Juliette Ponce, je suis absolument d'accord avec tout ce qu'elle vous dit, à savoir qu'il faut un intérêt, il faut un lecteur, donc il faut un intermédiaire, vu que l'arabe, c'est aussi un problème d'éducation en France, je veux dire, toute la communauté arabe qu'il y a, et puis l'intérêt doit être là. Moi, j'ai de nombreux amis français, je ne connais pas une famille française qui n'est pas parmi ses membres, une personne au moins, qui ait quelques rapports, directs ou indirects, avec le monde arabe. Tous ceux que je connais ont un rapport plus ou moins resserré, plus ou moins distendu, mais un rapport avec le monde arabe. Et il me semble que pour cet intérêt, pour avoir un intérêt, pour que la situation soit win-win situation, comme on dit en anglais, il faut que les éditeurs, eux-mêmes de leur côté, aient des conseillers, aient des gens qui lisent. On va chercher tous les 10 ans qu'il y ait quelqu'un qui connaisse bien l'arabe, qui connaisse moyennement l'arabe, parfois quelqu'un qui ne connaît pas très bien l'arabe peut, même s'il lit un petit peu, détecter un bon auteur. Donc là, il y a un travail à faire au niveau des maisons d'édition. Mais je suis d'accord absolument avec ce que vous dites, il faut qu'il y ait un intérêt des deux côtés. Et il me semble que la question de la traduction de la littérature arabe, en prenant la littérature au sens plus large, comme disait Nicolas tout à fait justement, si on prend la littérature arabe, il y a un cliché, une sorte d'étiquette qui circule dessus. D'abord, la littérature arabe, c'est une sorte de synecdoque, puisque très souvent, la part du lion est réservée à l'Égypte ou à cause de ce prix Nobel unique, de Nagib Mahfouz, mais aussi à la région Syrie-Palestine, qui a donné de très grands poètes en particulier, mais pas seulement, je veux dire des essayistes, hein, les écrivains de Marja, qui ont émigré aux États-Unis ensuite, un des plus grands théoriciens de la théorie postcoloniale, etc. Saïd, qui est d'origine palestinienne, il y a une sorte, on va dire, de stéréotype. Enfin, dans les imaginaires européens, il y a cette partie qui joue un peu le rôle de la source. Et on oublie souvent la partie maghreb. Et moi, je pense, par exemple, depuis ce qu'on a appelé les révolutions arabes, il y a, je pense que la question que je vous pose, c'est est-ce que les éditeurs ont fait un travail de réinfléchissement de la politique éditoriale au vu de ce qui a été fait. Parce que moi, je sais, par exemple, je vais vous donner juste un exemple. L'Institut français a eu l'idée de lancer une commande sur un livre de littérature tunisienne qui couvrirait le XXe siècle tunisien en littérature, à la fois arabophone et francophone. Ce qui ne s'était jamais fait auparavant. Parce que, auparavant, et quand on prend 100 ans, si on vraiment commence à la fin du XIXe siècle, on prend 100 ans de littérature en Tunisie, on a l'impression, parce que moi je suis universitaire, j'enseigne les littératures françaises et francophones, mais on a l'impression, parce qu'on le fait, si on ne voit que ça prend par dilatation, que ça occupe une très grande... C'est vrai que ça occupe une part importante. Surtout aujourd'hui, une part, du point de vue de politique, il faudrait que ça occupe plus de place, parce que nous-mêmes au Maghreb, on a cette menace de l'enfermement identitaire. Hein. Bon, on le voit dans ce qui se passe en Tunisie ces derniers jours. Mais quand on regarde, on s'aperçoit qu'en réalité, il y a 25% d'écrivains francophones pour 75% d'écrivains arabophones. Même s'il y a certains de ces écrivains arabophones qui parfois font des essais en français, mais ils ne sont pas connus véritablement, il y en a peu. Hein, je sais pas, bon. Il y en a deux ou trois qui écrivent français, qui sont étiquetés pour être francophones, mais qui font aussi de la littérature en arabe écrite au sein. Donc voilà. Est-ce que vous pensez qu'après les révolutions arabes, la politique éditoriale va un peu réajuster le tir en essayant de s'intéresser à ce qui se passe? Parce que le malheur, c'est que vraiment, personne ne connaît rien en France à cette littérature tunisienne. Et même au Maghreb, le Maroc et l'Algérie ont souvent se taillent un peu la part du lion parce qu'ils ont une grande visibilité, même du point de vue de la littérature francophone, plus que la littérature tunisienne, par exemple. Hein, je tire un peu pour fêter la couverture. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais quand même rester impartial. Hein. Tu sais.
Bon, il y a beaucoup de questions soulevées là en même temps. Bon, c'est vrai que la tendance, historiquement, chez les éditeurs français, s'agissant du Maghreb, c'est de privilégier des francophones, ça a l'air moins cher. Et effectivement, il y a une production, je pense que vous n'allez pas me contredire, il y a quand même une production littéraire extrêmement intéressante en français au Maghreb. Après, bien sûr qu'il y a des choses intéressantes dans la sphère arabophone maghrébine. Par exemple, Actes Sud publié suit un certain nombre d'auteurs maghrébins, la Rej, Berdan, au Maroc, en Tunisie, Habib Selmi. Différents auteurs comme ça. Après, alors, moi je me trompe et peut-être que je vais vous contrarier un petit peu, mais je trouve, moi je suis tout à fait ouvert sur le plan géographique et entre Maghreb et Machrek, j'accepte. Mais après, il me semble quand même que le pôle du livre arabe, les pôles du livre arabophone sont plutôt du côté du Caire, de Beyrouth, ou de... Voilà. Il y a des textes très intéressants au Maghreb. Voilà. Ça c'est une chose.
Ce que vous dites est entièrement vrai. Oui. Hein, c'est la question d'imprimerie. Des livres coûtent très cher à imprimer en Tunisie, par exemple. Prenez l'Union des écrivains tunisiens, ils importent le papier de l'Union européenne, ils ont une convention avec l'Union européenne, ça j'ai appris récemment, et ça coûte très cher de faire venir le papier, d'où le coût est absolument rédhibitoire du livre. Le livre est un produit de luxe. Vous avez tout à fait raison. Alors que ce qui fait que, par exemple, les gens que je connais qui écrivent en Tunisie vont imprimer à Beyrouth, ils vont imprimer en Égypte, parce que ça coûte rien d'imprimer. Et quand on voit au salon du livre qui s'appelle La Foire du livre à Tunis, il y a une, mais alors, une avalanche, c'est un tsunami d'ouvrages publiés dans ces maisons d'édition, parce que ça coûte moins cher.
D'ailleurs, je dois avouer très, très modestement que pour le Maghreb, les textes que je vois la plupart du temps, c'est ceux qui sont publiés effectivement à Beyrouth, ou pas tous. Hein, pas tous. Deuxième point, la question des révolutions arabes. Je me pose la question. Moi, il me semble qu'on est actuellement, si on en juge par ce qui se passe sur la scène littéraire égyptienne, la Syrie est un cas très particulier actuellement. Je crois que il serait naïf de croire qu'on a des mouvements, des renversements politiques. Et le lendemain, les auteurs vont pondre des romans qui intègrent tout ça et qui parlent de ce qui s'est passé, et de, voilà, comme l'attendent les journalistes, comme l'attendent les éditeurs aussi, certains. Voilà. Je crois qu'il est vraiment trop tôt pour avoir les retombées de ces retournements politiques. Les choses se passent, c'est absolument évident. Mais voilà. Bon, pour moi, c'est trop bien.
Bon, j'ai pas grand-chose à ajouter, si ce n'est que je pense que ce désir, il existe de la part des éditeurs, comme tu viens de mentionner, parce que. Je ne sais pas, chez Bûcher, par exemple, on a une collection de littérature étrangère, dont une des lignes essentielles, c'est des textes en prise avec le monde contemporain, vraiment ce qui s'y passe, pas des romans sociaux, mais en tout cas, les romans ont quelque chose à dire sur l'espace-temps contemporain, même si c'est à travers des histoires intimes. Et je pense que c'est une recherche constante, en tout cas de certaines maisons. On parlait juste avant de commencer cette quelques livres que j'avais pu recevoir d'un Jean Oiseux qui avait attiré mon attention. Et dedans, il y avait deux titres de Maghreb, hein, marocain et tunisien. Donc ça existe. Après, c'est vrai que le processus même de filtre et d'édition, pour vous donner un exemple, celui que je connais, chez Bûcher, on publie 10 titres de littérature étrangère, 10 par an. On a traditionnellement, parce que c'est l'histoire de la maison, une part belle faite aux anglo-saxons, et puis parce que on en a besoin aussi structurellement, ça veut dire près de la moitié de ces 5 titres occupés par des auteurs anglo-saxons, au moins 4 en tout cas. Après, ça va très vite. Si on se définit comme une collection où, a priori, peuvent être accueillis tous les domaines linguistiques, il y a les langues qu'on lit soi-même, donc sur lesquelles on a une accroche plus évidente. Donc il y a un ensemble de barrières, c'est pas forcément... les résistances ne sont pas forcément choisies. Elles sont parfois même suivies par l'éditeur. Moi, j'aimerais bien pouvoir faire 30 livres par an, si on me laissait faire, je le ferais. Mais du coup, c'est le moment de basculement, le moment où le choix est fait et on passe d'un choix de cœur à une économie, parce qu'on ne peut pas se mentir, c'est ce qu'il y a autour du livre, c'est une industrie et une économie aussi. Je pense que faut pas abandonner, il ne faut pas penser toujours que les choix sont faits par résistance ou par non-désir en tout cas. Je pense pas.
Je suis très agréablement surprise d'entendre deux personnes qui travaillent dans des maisons d'édition soutenir quelque chose que je trouve tout à fait cohérent pour une politique éditoriale. Je ne pense pas qu'il faille absolument que l'intérêt pour le monde arabe ou pour la littérature arabe soit lié à une actualité quelconque, même si elle peut nous paraître dans l'immédiat, révolutionnaire et ainsi de suite. Le peu de productions littéraires qui ont poussé comme un prurite pour essayer de rendre compte de ce qui s'est passé depuis 2011 ne mériterait peut-être pas vraiment de survivre dans une postérité quelconque. Souvent, c'est des chroniques écrites dans une espèce de degré zéro de l'écriture. Il n'y a d'ailleurs aucune prise de distance vis-à-vis de l'événement, donc il ne peut y avoir de véritable réflexion ni sur un travail de la langue, et encore moins sur la compréhension de l'événement lui-même. Et je me demande s'il faut vraiment en attendre quelque chose. En revanche, peut-être que ce que vous disiez tout à l'heure à propos de cette espèce de, comment dirais-je, paresse que l'on a de ce côté-ci, de la Méditerranée, à ne pas trop s'intéresser au Maghreb parce qu'il y a des gens qui écrivent en français, eh bien, sachez qu'il y a une écriture en arabe qui dit peut-être autre chose que ce que dit la littérature francophone, qui sait très bien qu'elle s'adresse à un lectorat français et francophone par rapport. Oui. Oui, je veux dire que...
Non, vous ne comprenez pas mal, je n'ai pas dit d'accord. D'accord.
Non, parce qu'il y a un écrivain, par exemple, l'Algérien Rachid Boujedra, qui a prétendu s'auto-traduire, qui a écrit donc la... deux versions d'une même histoire, et j'ai pu travailler sur les deux versions, c'est sensiblement différent, ce sont des discours rhétoriquement différents, parce que l'un s'adresse à un lectorat arabophone, et donc aussi en grande partie musulman, et l'autre s'adresse à un lectorat francophone, donc supposé aussi laïque. Donc ne serait-ce que les jeux sur certains tabous ne sont pas les mêmes.
Je ne sais pas si c'est une autre question, mais moi je voudrais juste dire quelque chose, parce que tout à l'heure quand j'ai parlé de ce qui s'est passé depuis 2011, la révolution arabe, je pensais à des écrivains antérieurs, en fait je me suis aussi mal exprimée, c'est-à-dire que pour moi ça a été un révélateur, on s'est mis à lire des écrivains qu'on ne lisait pas. Il y a un phénomène en littérature qu'on appelle la rétrolecture, une fois qu'on a avancé on revient dessus. Et ces phénomènes-là, on y a assisté. C'est-à-dire qu'en marge, en parallèle de tout ce qui est sorti des productions, comme a dit Douria, des petits trucs qui sont sortis comme des champignons, chroniques de 2 ans ou de 6 mois de révolution, qui évidemment sont pas en littéraire, enfin, il faut être kamikaze comme éditeur pour se jeter dans ce truc-là. Même c'est en arabe, c'est intéressant. C'est fait en urgence, comme elle a dit, tout de suite. Mais on s'est rendu compte, alors, à la faveur de cet événement qui s'appelle la révolution, qu'il y a eu des auteurs qui présentaient un intérêt, donc qui s'est fait connaître, enfin, qu'on a remarqué au moment ou après la révolution. Et c'est là où c'est intéressant. Moi, ça m'intéresse particulièrement parce que je me dis, moi, je travaille, je suis un peu, je vis en Tunisie, mais je travaille beaucoup avec la France et les universités françaises, et je me dis, c'est une politique de traduction de ces textes intéressants qui donne une autre image du Maghreb. Parce que c'est très complexe, les choses qu'il ne faut pas nier, la complexité extrême de ce monde maghrébin. Or, on le nie, parce que ce qui a été dit tout à l'heure, par exemple, par Jean-Yves Masson, c'est ça. On ne connaît pas, donc il y a une espèce d'opacité qu'à l'autre. Il y a une opacité. On ne peut pas réduire les choses, c'est pas d'ailleurs en traduisant que les choses vont devenir transparentes. Mais c'est vrai qu'on connaît mieux. Et on accepte peut-être mieux une certaine complexité en traduisant. Je pense qu'il y a vraiment un travail politique au sens presque social à faire. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, il y a des auteurs, mais des auteurs qui sont même, qu'on a redécouverts, qui sont même tombés dans le domaine public, c'est-à-dire des auteurs qui sont morts depuis plus de 60 ans, et qui tout d'un coup, à la faveur de cet événement, se prêtent à une relecture qui est extrêmement nouvelle et originale, et qui finalement fait le plus grand bien à des lecteurs qui sont à la recherche d'une autre image du monde arabe, qui ne sont pas en contradiction, je veux dire, ce n'est pas une autre image révolutionnaire ou complètement subversive, mais qui montre qu'il y a des linéaments, des quelque chose, des prémices de quelque chose qui se pensait déjà, qui se préparait déjà. C'est à cela que je faisais allusion tout à l'heure. Voilà. Et qui pourrait intéresser les lignes éditoriales, qui serait moins, je dirais, dans la vitrine du monde arabe, c'est-à-dire la recherche. C'est même si à Nobel. Parfois, les choses sont dites de façon plus intéressante par quelqu'un qui n'est pas connu sur la place. Je veux dire, c'est vrai, les choix éditoriaux sont faits aussi parfois. Mais c'est aussi votre travail à vous. Je pense que vous avez un rôle très important à jouer, très important, vraiment. Hein, parce que vous pouvez ouvrir des traverses qui font sortir des avenues tout le temps tracées. On sait où on va aller, parce qu'à l'horizon, on attend.